Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 1er septembre. Eh oui, on est rendu au mois de septembre.
On s'achemine, fait beau.
On s'achemine tranquillement vers l'automne. Mais cette semaine, période de canicule. Hein?
Oui, oui.
Ça se prolonge, c'est bien.
Ça se prend bien.
Alors, vous entendez la voix de André-Étienne.
Oui, bonjour à vous tous.
Complice de
presque un an.
Il y a presque un an maintenant.
Ouais, ouais,
voilà.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, André, tu nous parles de quoi aujourd'hui?
Alors, je vais vous parler évidemment de trois articles. Le premier, ça va être sur l'hémoglobine d'un ver marin. Attendez la suite. Qui pourrait vous être transfusé à vous humains, à nous humains. C'est tout un truc. Hein?
Intéressant.
Alors, c'est un article extrait de France Info. Le second, c'est très intéressant aussi, c'est un article qui s'intitule « Voyage pour aveugles, périple pour les sens, la vue en moins ». Ça, c'est extrait de la presse. Et le dernier, c'est une question que je vous pose. Savez-vous ce que c'est que la moléculture ?
Pas vraiment.
Pas vraiment.
Je sens que je vais l'apprendre.
Voilà, vous allez l'apprendre vous aussi en même temps que Michel.
Alors
à tout à l'heure.
De mon côté, je vais vous parler de la lime. La lime, oui, mais qui s'écrit avec un Y.
Ah, d'accord.
La lime. Alors,
pas le fruit.
Pas nécessairement le fruit. Ce n'est pas qu'un fruit, hein, la lime. Puis, dans le cadre des grands projets qui ont lieu, qui ont cours dans le monde actuellement, les grandes structures, hein, je vais vous parler de toutes sortes de choses. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler du plus long tunnel qui a jamais été creusé. C'est incroyable de voir les chiffres qu'il y a à l'intérieur de ça. Puis, Central Park. Il y a un petit problème pour certains résidents, des gens qui aiment aller se promener à Central Park. Quel est ce problème? Restez avec nous. Vous allez le savoir bientôt.
Eh oui.
Alors, la lime, qui s'écrit L-Y-M-E, avec un L majuscule. Vous savez, ce n'est pas qu'un petit fruit vert. Hein? Et c'est Sarah-Annie Guénette qui nous en parle dans la presse du 23 mai. Et les températures polaires vont nous envahir bientôt. Hein? Bon, ça paraît pas aujourd'hui. Alors, certains animaux vont hiberner, d'autres vont hiverner. Et finalement, il y en a d'autres. Ça, c'est des irréductibles qui ont été capables de développer toute une gamme de protection contre les grands froids. Mais reste actif l'hiver. Double et même triple poil, des duvets, plumes, substances hydrofuges, des couches adipeuses additionnelles, des ajustements comportementaux métaboliques pour conserver leur chaleur. Alors, les astuces de la nature qui permettent à ces animaux de survivre au grand froid ne trouvent de limite que dans la multitude des individus qui la constituent. Est-ce que vous saviez, moi je l'ignorais, que le Québec abrite les quatre seules espèces de grenouilles connues au monde comme pratiquant la cryoprotection.
La cryoprotection, ça c'est tout un mot, hein? J'imagine que ça fait référence un petit peu au froid.
Oui, c'est ça, mais vous allez voir, c'est assez étonnant. Vous avez différentes sortes de grenouilles, des rainettes particulièrement, rainette versicole que vous connaissez bien, la rainette faux-grillon, la rainette crucifère, en fait, contre les rainettes, quoi. Ils produisent... Toutes ces rainettes-là produisent, une fois l'automne venu, des niveaux sanguins de glycérol ou de glucose absolument hors normes. Et ce qui est intéressant, ça leur permet ensuite de geler comme un glaçon pendant l'hiver et de revenir à la vie quand les températures deviennent clémentes au printemps.
On pourrait les mettre dans notre congélateur, finalement.
Absolument, tout à fait.
D'accord.
Vraiment, si vous voulez en garder une, ben oui. Et ça agissant comme une purge, ou tout au moins comme un temps d'arrêt pour bon nombre de parasites, ben, l'hiver nous permettait historiquement de ne plus nous soucier de ces envahisseurs pendant un minimum de 5 mois par année. C'est que durant la saison froide, on ne s'inquiète plus des puces, des vers intestinaux, des tiques, des moustiques, car pour la plupart, ils passeront l'hiver en dormance. Je vous parle des puces, des larves. Mais attention, ce qui s'appliquait du temps de nos grands-parents, subit depuis le début du 20e siècle un changement grave. Ben, vous avez peut-être déjà entendu parler du réchauffement climatique.
Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est pas grave. C'est nouveau, ça.
Eh bien, c'est nouveau, oui. Et c'est ainsi qu'au rythme des années de faste climatique, une petite envahisseuse tout particulièrement dangereuse s'est introduite progressivement au Québec et dans d'autres provinces du Canada. Et ça s'appelle la tique du cerf. Elle est porteuse de la maladie de Lyme, ou Lyme, si vous préférez, parce que ça vient de la ville de Lyme. Elle peut infecter tous les mammifères, tels que les chiens, les chats, les cerfs, les souris et des humains, causant une gamme impressionnante de symptômes qui peuvent aller de simples douleurs articulaires à une défaillance rénale et même une encéphalite. On en
oui,
a déjà parlé chez l'humain. Hein?
Oui, les troubles neurologiques.
Mais au cours des dernières années, la prévalence de la maladie de Lyme chez les chiens non vaccinés dans les régions où elle est endémique est passée à 75 %.
Oh,
c'est énorme, hein?
Oui.
Et atteignant par le fait même une des premières places au palmarès des maladies infectieuses canines. Merci. Entendons-nous bien, la tique du cerf au Québec est le seul organisme capable de transmettre la maladie de Lyme. Vous ne pouvez donc pas attraper la maladie par l'entremise de votre chien ou de votre chat, seulement de la tique elle-même.
Oui, parce qu'elle est sur une herbe. Hein.
C'est ça.
Sur une herbe, c'est quand on se promène dans les champs.
Par contre, ils peuvent aisément servir de transport à une tique infectée. Et là, je parle des animaux, vos chiens, vos chats, qui arrivera ainsi dans votre cour ou dans votre famille si vous jouez dans l'herbe. La lutte contre cette maladie s'effectue donc en deux temps. D'abord, par la vaccination de votre chien contre la Lyme, et secondo, par l'élimination des tiques par l'administration de produits anti-tiques à votre chien pour l'empêcher de transporter la tique.
Est-ce qu'on va trouver des trucs écologiques pour ça?
Je l'ignore, n'étant pas particulièrement versé dans ce domaine. Maintenant, depuis quelques années, l'arrivée tardive des températures froides en automne, on sait souvent, avant les fêtes, on a peu de froid. Alors, les fréquents redoux hivernaux et la fonte accélérée de la neige au printemps nous rappellent que certains vers, parasites ou acariens s'activent dès l'arrivée des températures clémentes. Alors, votre médecin vétérinaire aura d'ailleurs certainement déjà abordé avec vous la question de la vermifugation annuelle ou d'une, ce qu'on appelle aussi vermifugation prolongée. Ces approches offrent à votre animal une couverture annuelle ou presque annuelle qui va le protéger en tout temps, ainsi que votre famille qui va être protégée contre des envahisseurs.
Parfait.
Hein. Et il devient parfois surhumain dans le tsunami de nos vies de surveiller notre chat préféré et qui aurait peut-être attrapé et mangé la souris qui squattait dans votre penderie ou dans votre cour. Ou Oscar qui patrouille consciencieusement du bout de son museau chaque centimètre de votre cour. Et c'est lors de ces patrouilles que les chats et les chiens dénicheront des endroits infestés de puces, de tiques ou de vers ronds qui peuvent être transmis aux humains. Et il ne faut pas l'oublier, hein?
Mm-hmm.
C'est un pensez-y bien, car certains de ces parasites peuvent sérieusement nuire à la santé de votre animal et aussi à la vôtre. Donc, il convient donc de se poser des vraies questions.
Bon, quand on parle de vraies questions, là, j'aime ça, mais je voudrais savoir lesquelles elles sont dans la circonstance.
Voilà. Alors, mon chat d'intérieur est-il vraiment un chat d'intérieur?
D'accord.
Est-ce que vous le laissez jamais dehors? Il n'y a jamais de contact à travers le moustiquaire avec les autres matous du quartier?
D'accord.
Il n'y a pas de souris ou de puces dans votre immeuble? Mon chihuahua de bras, celui que je garde, là, est-il exclusivement membre du club fermé de mes bras?
Oh, c'est joli, ça.
Il va jamais dehors, il n'y a aucun contact avec les autres. Alors, c'est des questions qu'il faut quand même se poser. Ces questions peuvent sembler anodines, mais sont en fait le reflet du grand nombre d'occasions qu'un animal aura dans sa vraie vie de chien ou de chat de bénéficier d'une vermifugation annuelle bien adaptée à son mode de vie. Alors, un bon produit de vermifugation est absolument essentiel.
Alors, un bon conseil.
Alors, pas seulement pour vos animaux, mais pour vous-même.
Vous-même aussi.
Hein? Donc, c'était tiré de la presse du 23 mai, Sarah Annie Guénette.
Bon, eh bien, je vous posais la question pour savoir si vous connaissiez le mot « molléculture ». Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Ce mot-là, ça veut dire agriculture moléculaire.
Ah, hein? Voilà, on sait.
Voilà, moléculture. Alors, on sait depuis toujours que les plantes ont servi à soigner l'humanité. Mais maintenant, elles vont peut-être pouvoir nous aider en plus à synthétiser des vaccins et des médicaments. Non seulement à moindre coût, mais en plus avec une rapidité absolument jamais vue. J'ai oublié de vous signaler quand même que l'article en question s'appelle « L'or des pharmas » et qu'il a été extrait de la revue Québec Science du mois de juin-juillet 2015 et écrit par Marine Corneau. Alors ce qu'elle écrit, elle dit « Voilà, la menace Ebola est encore loin d'être écartée, bien sûr, mais elle aura eu le mérite de donner un coup d'accélérateur à la recherche en permettant de tester sur le terrain plusieurs vaccins et des traitements expérimentaux, dont le ZMAP, qui est un sérum composé d'anticorps censé neutraliser le virus. » Alors ce ZMAP, qu'est-ce qu'il a démontré? Une efficacité sur des singes infectés, d'abord, et il a été administré en urgence à plusieurs malades en 2014. Et voilà même que le département de santé des États-Unis fait appel à une entreprise québécoise qui s'appelle Medicago pour l'aider à produire davantage de ce ZMAP. Parce que chez Medicago, les vaccins et les médicaments sont fabriqués par des plantes, et cette plante, c'est plus précisément une qui est une cousine du tabac et qui s'appelle Nicotiana bentamiana. J'ai forcé, hein? Elle travaille sans relâche et c'est elle qui fournit la machinerie cellulaire, si on peut dire, et la matière première que les biologistes vont détourner à leur fin en la contraignant à fabriquer des molécules thérapeutiques. C'est assez drôle, hein, quand même, vous allez voir ça. Alors, la start-up, elle a réussi à produire jusqu'à présent 10 millions de doses du vaccin contre la grippe H1N1 en moins d'un mois en 2012. Vous vous en souvenez peut-être, hein?
Oui.
Et quand on sait que lors de la pandémie en 2009, il a fallu presque 6 mois pour élaborer le premier vaccin, on comprend l'intérêt de la molécule, même si pour le moment, on en est juste au stade du développement. Alors, les plants, sur les photos que j'ai vues dans l'article, ça ressemble à du basilic. Ils sont hauts d'une trentaine de centimètres et ils arrivent à fournir en seulement une dizaine de jours une quantité importante de protéines que les procédés classiques ne permettaient pas d'obtenir ou qu'on pouvait obtenir seulement en plusieurs semaines. Et le coût pour produire un vaccin antigrippal avec cette méthode-là pourrait être divisé par 10 et même peut-être pour l'investissement nécessaire au développement d'anticorps comme ce ZMAP, divisé par 100.
Ça me paraît particulièrement intéressant. Mais comment on fait pour obtenir ces protéines qui sont nécessaires à la fabrication des médicaments?
Alors ça, c'est une technique qui a été choisie par Medicago et qui est une technique qui s'appelle l'expression transitoire. Cette technique, elle consiste à introduire dans une plante normale le gène correspondant à la protéine que l'on souhaite obtenir et forcer la plante à en fabriquer de grandes quantités. Le gros avantage, c'est que contrairement aux OGM, ce gène ne s'intégrera pas de façon permanente au génome et ne pourra donc pas être transmis ni aux graines ni au pollen. Alors, le processus pour obtenir la substance active du vaccin, il nécessite environ une dizaine de jours. Et pour le réaliser, les biologistes vont utiliser une bactérie du sol qui peut, de façon naturelle, transférer de l'ADN dans les cellules végétales. Cela dit, il faudra quand même ruser avec la plante, puis c'est là, c'est drôle, hein? Parce que pour arriver à obtenir la substance du vaccin, je ne savais pas, mais les plantes, elles ne se plient pas de bonne grâce à la production de protéines qui leur sont inutiles. Parce que lorsqu'elles détectent un gène étranger, elles sont capables de le séquestrer et de le neutraliser.
Astucieux.
C'est astucieux, hein?
Ah oui.
Je dois dire que j'étais complètement surprise. J'ai relu la phrase plusieurs fois avant de comprendre que la plante pouvait neutraliser des éléments étrangers. Alors, la parade pour empêcher cette réaction, c'est d'introduire un autre gène virus qui empêche la plante d'activer ses moyens de défense. À ce moment-là, la plante, elle ne voit que du feu et elle fabrique à la peine les protéines étrangères nécessaires à la fabrication du produit.
Comment tromper une plante?
Comment tromper une plante? Ça, c'est assez rigolo. Je dois dire, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment étonnant. Alors évidemment, bon, il y a bien des voies d'amélioration qui sont encore ouvertes, mais le rendement obtenu chez Medicago est maintenant suffisant pour assurer la rentabilité. Et l'équipe, elle s'apprête à lancer un essai clinique pour évaluer l'efficacité d'anticorps anti-VIH produits par des plants de tabac, donc génétiquement modifiés. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand même, la start-up, elle a été achetée pour 400 millions de dollars par Mitsubishi et elle possède de grandes serres en Caroline du Nord, et c'est là-bas que l'entreprise a réussi à produire donc les grands millions de doses. Bon, en bref, la moléculture, ce n'est ni une solution de rechange, ni une menace pour les procédés pharmaceutiques classiques, mais bien un complément qui autorise à imaginer des produits totalement inédits. Surtout que, en outre, sa rapidité d'action, donc 12 jours au lieu de plusieurs semaines, voire des mois, le processus est plus sécuritaire que les cellules animales habituellement utilisées pour produire donc les protéines thérapeutiques, parce qu'il n'y a pas de contamination par des virus d'humains ou de mammifères. Actuellement, deux vaccins anti-grippaux sont en cours d'essai clinique de phase 2 sur 2000 patients. Le profil d'innocuité semble excellent, la protection semble meilleure que celle des vaccins actuels. Et pour produire un vaccin, il faut 5 à 6 mois. Vous imaginez, en cas de pandémie, la mise au point d'un nouveau vaccin doit être très rapide parce que Ebola a été un petit peu une alerte, mais c'est peut-être qu'un avant-goût de drames médicaux que l'humanité devrait avoir à confronter. Il suffit d'imaginer une pandémie de grippe qui entraînerait des graves symptômes respiratoires. Donc, on peut imaginer ce que ça peut être, hein. Donc, la souplesse de l'expression transitoire, c'est une grande force pour la recherche, parce que la moléculture peut être pratiquée partout, puisque l'agriculture, c'est un secret pour personne. On peut même faire de la production dans un sous-sol d'immeuble, soutient un scientifique en France qui s'apprête à commercialiser des protéines pour le diagnostic et le traitement d'allergies.
Ouais, ça m'inquiéterait un peu de fabriquer ça dans le sous-sol, là.
Oui, mais après tout, pourquoi pas,
Oui, c'est vrai.
dans les pays en voie de
Ouais,
développement, ça
c'est
peut
juste.
être intéressant,
Ouais,
hein.
c'est vrai.
En conclusion, ce n'est ni une solution de rechange, ni une menace pour les procédés pharmaceutiques, mais un complément qui autorise à imaginer des produits tout à fait inédits après avoir été pendant des millénaires des outils de base de la médecine traditionnelle.
Ça paraît prometteur, hein?
Ça paraît prometteur, hein? C'était un article de Québec Science de juin-juillet 2015, écrit par Marine Cournoux. Je l'ai trouvé très porteur d'espoir, cet article-là.
Oui,
Qu'en
c'est juste.
pensez-vous, vous?
Ah oui, je trouve ça fort intéressant.
Est-ce que ça vous a intéressé? Dites-le nous si ça vous a intéressé. On a besoin d'avoir vos
Ben oui, il
commentaires.
faut savoir.
Alors, à bientôt.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Si un jour tu devais t'en aller et me quitter, mon destin changerait tout à coup, tout, 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 tout. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur. Plus vide que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait court. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. En attente pensée, je sais bien, au long
compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blond que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des plaies. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que les rêves que m'apportent tes yeux.
Que de romantisme. Plus bleu que le bleu de tes yeux.
Oh, c'est tout.
C'était Gilles Barber. Gilles, c'est J-I-L-L. Hein?
J, hein?
Gilles. Okay. Disons Gilles Barber. Bien. Ce qui nous amène au plus long tunnel jamais creusé. Vous savez, j'ai parlé de toutes sortes de choses comme le canal, l'élargissement du canal de Panama. Il y a des adjectifs incroyables. Dans le cas de présent, je dirais titanesque.
Oui, je pense à gigantesque.
Ah, gigantesque, c'est pharaonique. C'est ça, j'ai employé toutes sortes de... C'est un chantier qui va redessiner la carte de l'Europe, hein? Incroyable. Les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs vont grimper dans le train qui, à 7h15 précise, va les conduire dans les entrailles du massif de Saint-Gothard. Voilà où est ce tunnel. Le futur tunnel ferroviaire transpercera cette muraille, je pense qu'on peut dire ça, parce que c'est à 3605 mètres quand même d'altitude, et ça va s'étendre sur 57 kilomètres. À sa mise en service, qui est planifiée pour le 11 décembre 2016,
Faudra pas être apostrophobe.
Et ça, le plus long tunnel du monde. Il va surpasser l'actuel détenteur du record, qui est le tunnel ferroviaire japonais, que vous connaissez bien, le tunnel du Seikan. Et bon, que vous connaissez peut-être un peu mieux, le tunnel sous la Manche.
Oui.
Il va le dépasser de 6 kilomètres, à peu près. Il a été initié en 1994. Ce projet, qu'on mentionnait titanesque, va mobiliser près de 10 000 personnes. Des ouvriers, des ingénieurs, des techniciens, géomètres, et pour un coût de 8 milliards d'euros.
Presque
10 milliards canadiens, si on veut. Son objectif, c'est de réduire le trafic routier qui traverse la Suisse, et qui est un carrefour d'échange entre les pays d'Europe du Nord et ceux d'Europe du Sud, en transférant une partie du transport de marchandises des camions vers le train. Le tunnel est quasiment en ligne droite et présente un très faible dénivelé. Une différence qui change tout. Les trains de marchandises n'auront plus à grimper les lacets de la montagne à cause du dénivelé. Ils vont économiser 43 minutes de trajet, vont dépenser deux fois moins d'énergie, et donc les trains peuvent être plus longs et plus lourds. La capacité de transport de marchandises sur la ligne ferroviaire va bondir ainsi de 20 à 50 millions de tonnes par an. Considérable, hein?
Oui.
Les voyageurs vont y gagner aussi, pas seulement la marchandise, avec des trains de voyageurs filant jusqu'à 250 km/h dans un tunnel. Vous imaginez, hein? Pour l'heure, c'est en vélo électrique que les ouvriers circulent à l'intérieur du tunnel de base. Il se compose de deux tubes parallèles, espacés d'une quarantaine de mètres, et chaque tube va accueillir une voie unidirectionnelle. Okay. En revanche, il n'existe pas de tubes supplémentaires pour évacuer les voyageurs en cas d'accident, de panne ou d'incendie, comme c'est le cas dans le tunnel sous la Manche.
Il y a un
tunnel d'évacuation.
Est-ce qu'ils expliquent qu'est-ce qu'on va faire si
jamais ça se
produit?
C'est des galeries transversales qui vont relier les deux tubes tous les 325 mètres. Donc, on peut passer de l'un à l'autre.
Okay.
Le tunnel prévoit aussi deux stations d'arrêt d'urgence. Mais qui sont équipés de cheminées d'extinction des fumées et évidemment de très puissants systèmes d'évacuation. Les stations abritent également deux diagonales d'échange qui vont permettre aux trains de passer d'un tube à l'autre, si nécessaire, en cas de maintenance ou en cas d'accident. Ce projet hors norme cumule des défis importants à relever.
J'imagine que ça doit être des défis géographiques, profondeur,
etc. Oui, tout à fait, tout à fait, c'est bien trouvé. Le plissement alpin, qu'on appelle, c'est un véritable millefeuille, un millefeuille géologique. Il y a une vingtaine de couches rocheuses verticales qui se succèdent sur le trajet du tunnel. Il y en a qui sont constitués de granit, d'autres qui sont plus friables et qui nécessitent de mettre en œuvre des techniques de consolidation particulières. Alors, préalablement au chantier, les géologues ont donc dû déterminer la nature des roches en présence. Et le tunnel de base de Saint-Gothard est aussi le plus profond jamais réalisé. Sa couverture rocheuse atteint jusqu'à 2450 mètres d'épaisseur. Hein, c'est des chiffres, quand on titanesque, c'est le cas. Et plutôt que de creuser les deux tubes en partant de leurs extrémités, ce qu'on a fait par exemple pour le tunnel sous la Manche, c'est des points d'attaque en cours de route, des points intermédiaires qui ont été ajoutés avec plusieurs galeries d'accès pour descendre hommes et matériel jusqu'au futur emplacement. Ben, vous comprenez, avec la profondeur dont on a parlé. Ouais. Au total, ce sont plus de 150 kilomètres de tunnels, de galeries et de puits qui ont été creusés. Vous imaginez les tunneliers qui ont été capables d'engloutir 10 à 30 mètres de roche par jour. Et c'est le montage, seulement le montage des tunneliers,
ça a pris des mois. C'est tout un ouvrage en soi.
Il y a eu un accident d'ailleurs qui a provoqué un déversement de 4000 mètres cubes d'eau et de sable dans la galerie, donc en cours de route. Quelle que soit la méthode d'excavation employée, il y a une deuxième étape qui s'impose dès que la paroi est creusée.
Bon. Quelle est-elle?
Bien, il faut immédiatement consolider la voûte. Ben, vous savez, on a parlé de roches friables, entre autres choses. Oui. Sinon, la cavité sous la poussée des roches risque de rétrécir ou, encore pire, ça risque de s'ébouler. S'il faudra attendre un siècle pour savoir comment le tunnel a réellement tenu, le chantier a déjà remporté un autre défi, et ça, c'est celui de la précision. Parce que quand on creuse à différents endroits, il faut que le tunnel se rencontre. L'écart maximal toléré était de 12 cm, 25 cm, 12 cm. Et on a atteint un objectif. Ça a été encore mieux que ce qu'on avait prévu. Alors, c'était un article tiré de Science et Vie. C'est un hors-série, Et c'était par Olivier Lapierreau.
Merci.
Vous savez, j'ai parlé des animaux qui hibernent et qui hibernent. C'est deux termes différents. Hiberner, ça veut dire qu'ils ils s'engourdissent, et hiverner, ils se mettent à l'abri, sans s'engourdir. OK? Voilà la précision.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Eh bien oui, c'est un article tout à fait spécifique pour vous, chères personnes en déficit de perception visuelle. C'est « Voyage pour aveugles, un périple pour les sens, la vue en moins ». C'est un article qui a été publié dans la presse du 27 août et écrit par Élise Lévesque. Alors voilà ce qu'elle écrit. Elle dit « Voilà, pour certains globe-trotters, voyage ne rime pas forcément avec paysage ». Parce que les aveugles ont aussi droit à l'aventure, vous le savez comme moi, et ceci grâce à des périples qui sont conçus autour des odeurs, autour des textures, autour des sons, et puis autour des goûts aussi. Et en Inde, donc, l'auteur a rencontré des personnes qui font bien tourner bien des têtes. Alors, notamment, elle parle d'une dame qui s'appelle Anja Lehmann, et dont elle dit que sa canne blanche trahit son handicap visuel et qu'elle ne passe pas inaperçue dans un petit port qui s'appelle Vizhinjam, dans la région du Kerala. Donc, cette dame, bras dessus, bras dessous, elle marche avec Jodie Foster, rien à voir avec l'artiste. C'est une voyante qui, elle, décrit donc les marchandes de poissons qui sont vêtues de sari, on sait comme ils sont bariolés, les rafiots blancs aux motifs bleu, jaune, rouge. Et la jeune aveugle, donc, qui est allemande, elle est accompagnée de son mari, qui s'appelle Dietmar, et ils en sont au 12e circuit avec Travel Eyes. C'est une agence de voyage qui est spécialisée pour les malvoyants. Et ce qu'ils disent, les voyants sont impressionnés que nous voyageons autant. Et même parfois, ils disent qu'ils ont visité des pays que les autres ne verront peut-être jamais. Et l'expérience est tellement appréciée que 9 aveugles sur 10 mettent les voiles à nouveau. Mais pour voyager, pourquoi voyager si on ne peut pas admirer les paysages? Alors, le fondateur de Travel Eyes, qui est lui-même aveugle et qui s'appelle Amar Latif, explique qu'il voit davantage les autres, il utilise davantage les autres sens. Par exemple, l'ouïe à cause des cloches d'une église ou le bruit des charrettes. Par exemple aussi, quand ils descendent de l'avion en Afrique, ils ressentent toute la chaleur, toutes les odeurs aussi. Quand ils marchent sur le Machu Picchu, ils touchent les montagnes. Et bien sûr, le goût, parce qu'il faut goûter le vin, n'est-ce pas? Il a l'air de bien aimer ça. Alors, donc, au programme du périple en Inde, ce qu'il y avait, c'était des cours de yoga, des promenades dans les plantations d'épices, des soirées musicales, des balades à dos d'éléphants, même des croisières en bateau et bien sûr, des bons repas.
Oui.
Rien ne semble être à l'épreuve de ces voyageurs, si bien que l'entreprise offre même des voyages de ski.
Ah, ça, c'est un peu plus surprenant.
Oui, ça doit être pas mal rock'n'roll, hein?
Oui.
Alors, comme ils font, ils installent une radio sur les voyants. Les malvoyants n'ont alors qu'à suivre la musique de la personne avec laquelle ils sont jumelés. Toute une technologie, hein? Si jamais vous avez déjà fait ça, là, parlez-nous-en, on aimerait ça, hein, d'accord?
Oui.
Alors, donc, chaque jour, les malvoyants sont jumelés avec un voyant différent qui n'est pas bénévole, mais qui est bien vacancier. Et celui-ci paye la moitié du voyage. Je pense que notre ami Michel a déjà participé à ce genre de voyage.
C'est tout à fait par hasard. J'étais en safari en Afrique et ça fait un peu prétentieux. J'étais dans un safari en Afrique.
Ça fait chic, en tout cas.
Et il y avait un monsieur qui était aveugle.
Oui.
Et je regardais, et ça fait longtemps. Et je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait en voyage? Et je lui ai parlé et il était avec son épouse qui lui décrivait justement tout ce qui se passait. Et c'est comme s'il visualisait. J'avais trouvé ça fort intéressant. Et c'est pour ça que cette expérience-là, je la trouve fascinante.
Oui, oui, parce que ce qu'ils disent justement dans l'article, c'est qu'ils disent « Devenir les yeux d'un aveugle le temps d'un périple, c'est le choix de vacances, par exemple, que Michel avait pu faire, ou un technicien en informatique, qu'il le fait pour la deuxième fois. » Il dit « Les gens me demandent toujours si c'est difficile. » Et la réponse est catégoriquement « Non. » Tout le monde ici est égal, à tel point qu'il oublie souvent que je suis avec des malvoyants. Je leur dis « Oh, regarde, le palmier là-bas, regarde
!» Oui, c'est vrai.
Alors, ça le fait rigoler, évidemment.
Oui, oui.
Et comme la majorité d'entre eux, ils n'avaient jamais guidé d'aveugle avant sa participation avec Travel Eyes. Et il dit remarquer plus de détails et mieux se souvenir du travail. Il dit même « Ça ouvre les yeux ». Alors, la bonne humeur, elle règne dans le petit groupe qui est une vingtaine de personnes qui découvrent donc le sud de l'Inde. Les liens se tissent rapidement avec les participants. Tous s'entendent pour dire que les groupes de Travel Eyes sont les moins plaignards qu'ils ont courus. Vous savez que dans les tours organisés, il y a toujours quelqu'un qui pousse des hauts cris, mais là, il semble que dans ces groupes-là, il n'y a rien de cela.
Ouais,
c'est vraiment intéressant.
Ouais.
Alors, l'entreprise, dont le siège est en Angleterre, offre des départs à partir de plusieurs pays, incluant le Canada. Et c'est un aspect que un participant qui s'appelle Trevor Bradley précise qu'il en est à son 10e voyage et qu'il aime beaucoup parce que il dit qu'il y a des gens de toute nationalité et de tout âge. Et même si la majorité de ses participants est anglais, il dit qu'il a voyagé avec des gens d'Italie, d'Allemagne, du Canada, du Brésil. Et pour lui, qui est originaire d'Allemagne, il dit que ses voyages sont justement l'occasion d'apprendre l'anglais. Et il précise « Je me rappelle exactement quel guide m'a appris quel mot. »
Je trouve ça intéressant qu'on le fasse maintenant de façon organisée.
Oui.
Qu'il y ait un organisme de voyage qui a pris ça en charge.
Oui, la question que je me posais, c'est est-ce que ça peut se faire en français? Parce que là, c'est une organisation anglaise, donc, et j'ai l'impression qu'il faut parler anglais, là,
Peut-être dans le moment, mais je suis convaincu que c'est une expérience qui va se répandre.
Ah ben, je trouve que ça serait intéressant aussi. Je voulais essayer d'investiguer. J'ai des problèmes d'Internet en ce moment.
Et même actuellement,
je voulais investiguer pour savoir si ça se faisait en français.
Mais moi, je suis intéressé à accompagner ces gens.
Mais moi aussi.
Je trouvais ça fort intéressant de le faire.
On aimerait ça.
Ce qui m'est arrivé, c'est tout à fait par hasard. J'avais rencontré.
Ah, d'accord.
C'est ça, mais j'aimerais le faire de façon plus systématique.
On aimerait ça tous les deux,
oui.
Alors.
Alors, on est disponible.
On est disponible pour vous.
Alors, je vous ai même fait un tour à Central Park, mais pour une raison particulière. Oui, c'est très particulier. C'est la question qu'on pose, c'est Central Park va-t-il devenir Central Dark? Avec ses 306 mètres de haut, 75 étages, la tour, qu'on appelle 157, offre une vue extraordinaire sur Central Park aux millionnaires et surtout, je dirais même milliardaires qui habitent ou visitent un des 92 appartements dont le plus cher a été vendu, 100 millions.
Oh!
100 millions de dollars.
Mon
et ça a été vendu, on s'en doute un peu, au premier ministre du Qatar.
Ah.
Alors, pour bon nombre d'amoureux de Central Park, cependant, le gratte-ciel filiforme, qui est à l'intersection de la 50e rue et 7e avenue, ça représente le début d'un cauchemar urbain. Vers 16 heures, à la fin de septembre, on est proche, il jette sur le joyau vert de New York, je pense qu'on peut l'appeler ainsi, il jette une ombre qui mesure 1,9 km de long.
Ah, c'est terrible,
et ça atteint la 72e rue. Alors, certains jours ensoleillés d'automne ou d'hiver, et ça, c'est incroyable, il peut même faire plonger la température de 11 degrés.
11 degrés?
Oui. Et Celsius, hein, dans la zone qu'il couvre. Et ça, c'est une analyse de Municipal Art Society qui le dit. C'est une tour. Et la problématique, c'est qu'il y en a 11 autres qui s'en viennent.
C'est pas vrai. À Central Park?
Oui. Et l'un des amoureux de Central Park nous dit... Si nous avons 12 tours de cette hauteur, l'effet cumulatif produira un mur d'ombre qui s'étendra au fil du jour sur la moitié sud de Central Park. Or, cette partie du parc est celle qui est la plus utilisée et la plus peuplée. Compte tenu de la densité du centre de Manhattan, ça constitue un espace ouvert crucial, une ressource publique aussi précieuse que l'eau et que l'air.
Bien sûr.
On sait comment c'est précieux, Central Park à New York. Nous ne pouvons pas accepter sa transformation. C'est un amoureux de Central Park qui nous dit ça.
Ces
propos ont été tenus après avoir participé à une première démarche officielle pour empêcher qu'une partie de Central Park ne devienne Central Dark, pour emprunter une expression qui a été inventée par le Daily News.
Ben oui.
Alors, avec ses collègues du Central Park Sunshine Task, il a convaincu des membres du conseil communautaire du centre de Manhattan d'adopter une résolution demandant à la ville de New York d'imposer un moratoire sur la construction de nouvelles grandes tours d'habitation au sud du parc.
Il ferait bien. Hein?
Le zonage de New York n'a pas été révisé depuis 50 ans.
Mm-hmm.
Et il y a 50 ans, aucune ingénierie ne pouvait laisser présager des tours semblables.
Mm-hmm.
De fait, à une époque pas si lointaine, la tour 157 n'aurait pas pu dépasser 40 étages sur le plan de l'ingénierie.
Mm-hmm.
Or, les nouvelles technologies permettent de construire des gratte-ciels extrêmement étroits. Et l'un de ceux qui sont en construction au bord de Central Park va culminer à 410 mètres... Mais ce qui est étonnant, c'est la base. La base ne dépasse pas 18 mètres de largeur. Imaginez, c'est très étroit.
C'est sûr que j'aimerais habiter là-dedans, même si j'en avais les moyens.
C'est ça. Mais vous imaginez, ça veut dire qu'on peut en construire de plus en plus. Hein?
C'est fou.
Un peu après avoir terminé cet immeuble résidentiel de luxe, sera supplanté par la tour Nordstrom, qui aurait le même nombre d'étages, 94, que le One World Trade Center. Alors, vous imaginez, on est en train de bâtir un mur d'ombre autour de Central Park. Alors, comme le 157 et au moins deux autres supertours d'habitation, la Nordstrom Tower va s'élever le long de la 57e rue, qui est désormais surnommée, je pense que c'est très imagé, Billionaire Row. La tracée des milliardaires. Il ne faut pas oublier que billion en anglais, c'est milliard.
Oui.
Donc, il y a des milliardaires. C'est l'ombre de, sur Central Park de ces gratte-ciels et des autres qui vont suivre semble illustrer à merveille les excès d'une époque où les 1% des plus riches ne cessent d'étendre leur influence et leur pouvoir. Mm-hmm. Non seulement leur influence et leur pouvoir, mais leur ombre aussi. Mais
moi, je me pose une question, c'est comment les promoteurs peuvent se défendre de ces reproches-là?
Ben, dans tous les cas, vous savez, c'est un peu toujours la même chose. Les promoteurs des immeubles se défendent d'être de mauvais voisins. En février 2014, c'est récent, lors d'une assemblée publique houleuse, on peut le dire, l'un d'eux a insisté sur les retombées économiques de ces chantiers. Et c'est toujours, presque toujours le cas. On dit, oui, mais regardez ce que ça va apporter, tout en minimisant l'impact de ces tours sur Central Park. « Ces ombres seront longues et minces », a déclaré le promoteur à l'origine des tours 157.
Mais quand il y en aura 11, ça va faire beaucoup.
Ben, c'est ça. Il dit, elles ne seront présentes que pendant quelques minutes. Ben, un architecte qui fait partie de ceux que les propos du grand patron n'ont pas rassuré, militant au sein d'une association de défense du patrimoine, s'insurge non seulement contre le fait les ombres que créeront ces super tours, mais également contre les appartements hyper luxueux qu'on y trouvera. Et vous savez pourquoi?
Non.
C'est, selon lui, ceux-ci, les appartements dont on a parlé, vous savez, 100 millions qu'on a mentionné tout à l'heure, ceux-ci sont souvent achetés par des milliardaires étrangers, comme le monsieur du Qatar, là, par des milliardaires étrangers qui n'y feront que passer. Ou encore des sociétés anonymes qui cachent parfois des personnages un peu douteux et à l'argent sale. Donc, c'est souvent ces appartements-là vont être simplement, ça va servir de passage. Ce sont, on dit, comme image, et je trouve que c'est très imagé, ces appartements ne sont souvent que des coffres-forts.
Ouais.
À ceux qui y déposent leur argent savent qu'ils pourront toujours le récupérer. Et New York, lui, ne partira pas, hein.
Ouais.
Alors, c'est quand même un petit peu inquiétant. C'était Richard Etu qui en parlait dans la presse.
Bien
Central
triste.
Park, est-ce que ça va devenir Central Dark? Inquiétant.
C'est bien triste.
Sunshine, mais rien n'a pu me faire oublier the pretty face I'm wearing. Oh, le soleil se couche sur les buildings comme mon corps sur le tien, my darling. J'ai pris le large à New York City. Rien du tout beside my way. Rien pour me faire oublier a silly face I'm wearing. Oh, le sunshine s'étend sur les gratte-ciels comme ton corps sur le mien, ma belle. Des ampoules qui rêvent de t'allumer, de la tête jusqu'aux pieds. Turn you on someday. Oh, le sunshine réchauffe les boulevards comme tes becs sur mes bobos, mon trésor. Ici, on dort jamais.
perdu la tête à New York City.
Lost my head in New York City.
J'ai vu toute la street s'embrouiller. En fait, je commence à oublier. To forget what? Ce que j'ai toussé. S'endort sous les de ces lumières, mes yeux se ferment sur les soleils de Times Square.
Oh, les yeux qui se ferment sur Times Square.
C'est joli.
C'est une chanson d'Antoine Graton qui s'est intitulée New York. Alors, j'ai une question. Est-ce que ça vous tenterait de recevoir l'hémoglobine d'un ver marin?
Pas vraiment. À première vue, non.
Ouais.
je dis bien à première vue.
À première vue, mais quand on en a besoin, peut-être qu'on serait ravis d'avoir ça.
C'est ça.
Alors, ceci, c'est le résumé d'un article qui a été produit dans France Info du 22 février 2014, écrit par Michael Repartz. Et c'est le résumé c'est l'histoire de deux rencontres. Une rencontre avec un scientifique qui s'appelle le docteur Frank Zahl et la rencontre avec un ver marin aussi. Bon, imaginez, des asticots présents sur les plages bretonnes qui produisent une hémoglobine réputée pour ses propriétés extraordinaires. Entre autres, la compatibilité avec le sang humain. Et c'est cette découverte qu'a fait ce scientifique français qui en est à l'origine. Bon, on sait que les plages bretonnes, elles sont célèbres pour leurs régulières marées d'algues vertes. Mais, elles abritent également un trésor surnommé Arnicola Marina.
Ah, c'est joli comme nom.
C'est joli, hein?
Ah oui.
Ben, vous savez, c'est ce petit ver marin qui nettoie les bords de mer et qui laisse des petits tortillons dans le sable.
Ah oui, oui.
Ça m'intriguait tout le temps, j'étais très contente d'en trouver la réponse. Ouais. Eh bien oui, c'est lui qui possède un sang compatible avec tous les groupes sanguins humains, ce qui en fait un donneur que l'on appelle universel.
C'est incroyable, ça.
C'est incroyable, hein?
Ah oui. Alors, comment on a fait cette découverte? C'est un hasard ou...
Ben c'est un hasard parce que le docteur Frank Zahl raconte qu'il a découvert les vertus du sang des vers marins de façon tout à fait fortuite. Dans les années 90, il travaillait pour un laboratoire et on lui avait demandé d'étudier comment ces asticots parvenaient à respirer à marée basse. Parce qu'à marée basse, évidemment, ce n'est pas facile. Hein,
oui, ils sont découverts.
Exactement. Or, en décortiquant l'hémoglobine, on sait que l'hémoglobine, c'est la molécule qui est responsable du transport de l'oxygène dans l'organisme. Donc, en décortiquant l'hémoglobine du ver en question, il découvre qu'elle correspond à un substitut de sang universel. Pas de typage, pas de rhésus. Il s'agit d'une molécule extracellulaire, ce qui veut dire qu'elle n'a pas besoin de globules rouges pour circuler dans l'organisme. C'est exactement ce que les hématologues recherchaient depuis 40 ans, vous imaginez.
Ça a presque l'air de la science-fiction.
Ça. Exactement. Hein?
Ouais.
Et donc, au début des années 2000, Frank Zahl passe un an à tester sa trouvaille sur des animaux de laboratoire, souris, lapins. Les essais sont concluants sur toutes les bêtes qui ne présentent aucune réaction allergène et qui vivent tout à fait normalement après la transfusion. Alors, il dépose ses brevets avec son employeur qui est le CNRS. Mais il souhaite évidemment poursuivre plus avant ses recherches, vous imaginez. Hein? Là, il se heurte à sa hiérarchie et finalement, il va récupérer la propriété de ses brevets et quitter le CNRS et fonder sa start-up.
Une chance qu'il y a eu l'initiative.
Exactement. Alors donc, il a créé sa société en mars 2007 et elle s'appelle Emarina. Il n'avait aucune structure, pas de laboratoire, il partait de rien, il a fallu tout construire, toutes ses économies sont passées, mais aujourd'hui, il emploie 36 personnes. Et tenez-vous bien, il est parvenu à lever 15 millions d'euros en fonds privés. Et actuellement, il semble que son entreprise se soit promise à un bel avenir. On peut le comprendre, hein?
Oui.
Et là encore, évidemment, la Navy américaine les a approchés pour développer cette découverte avec eux parce qu'ils pensent que les propriétés du sang marin peuvent aider à guérir ce qu'on appelle les blasts. Les blasts, c'est un genre d'œdème cérébral qui est causé par des explosions. Ça peut servir aussi en cas d'accident vasculaire cérébral ou d'accident ischémique. Les accidents ischémiques étant la perte de la fonction cérébrale de courte durée.
Alors, quelles vont pouvoir être des applications possibles?
Il y en a plusieurs, parce que d'abord, le sang de ces vers marins, il contient 50 fois plus d'oxygène que celui de l'homme.
Mmh.
C'est incroyable, hein?
Oui.
C'est pour ça qu'on peut justement l'utiliser en cas d'AVC ou en cas d'accident ischémique. Et son utilisation peut donc être très vaste. Et voilà les différents domaines ou les différentes les applications possibles. Donc, il y en a trois qui sont citées dans l'article. La première, la plus évidente, c'est la transfusion sanguine. Parce que, bon, on le sait, même si les dons de sang sont en augmentation, la pénurie se fait toujours sentir à travers le monde. À l'heure actuelle, à peine 62 pays disposent d'approvisionnement en sang reposant sur des dons de sang volontaire non rémunérés et 40 étaient tributaires de donneurs familiaux, voire de donneurs rémunérés. Ça, ce sont les chiffres qui sont donnés par l'OMS, hein. Donc, première application, transfusion sanguine. La deuxième, ça serait d'une grande utilité dans le don d'organes, parce que grâce à l'hémoglobine du ver, tous les greffons sont mieux préservés parce qu'ils sont plus oxygénés, puisque donc 50 fois plus d'oxygène que le sang normal. Ça permettrait de limiter les cas de rejet d'organes par les organismes transplantés.
Ça, c'est intéressant, ça.
C'est intéressant aussi,
ah, oui,
hein?
Oui, 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 absolument.
La troisième application, ça serait un pansement oxygénant pour des plaies qui sont difficilement cicatrisables. On sait que celles des cas d'ulcères du pied diabétique sont un problème. Donc là, avec ce pansement oxygénant, on va vraiment améliorer la possibilité de cicatrisation. Donc, ce sont beaucoup d'applications qui suscitent de grands espoirs du côté de certaines associations pour le don d'organes et de tissus humains. Alors, certaines donc fondent beaucoup d'espoir là-dessus, mais d'autres sont plus prudentes et précisent qu'on n'en est qu'au stade expérimental, ce qui est vrai. On estime à côté de ça que moins de 2% des fonds océaniques ont été explorés et que peut-être quelques 250 000 espèces marines ont été recensées. Mais on considère qu'il existe au moins 2 millions, il en existe au moins 2 millions. Donc autant de découvertes médicales encore possibles, n'est-ce pas? C'était un article de France Info, écrit par Michael Repars.
Un événement qui s'est passé la semaine passée, ça a pu paraître anodin ou passer inaperçu, c'est la tomatina. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Rien du tout.
En Espagne, la bataille des tomates, c'est né en 1945, donc ça 70 ans, à Buñol, qui est en gros à 40 km de Valence. Et c'est une ville de 9000 habitants, mais à ce moment-là, il y a 22 000 touristes qui sont à la place. Et en fait, c'est une bataille de tomates. Et ça a lieu le dernier mercredi d'août pour fêter la fête du saint patron du village, qui est San Luis Bertran. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en 2015, ben ça vient d'avoir lieu, il y a eu entre 150 et 170 tonnes de tomates qui sont entreposées particulièrement pour ça, pour que les tomates soient suffisamment mûres pour ne pas blesser personne. Hein?
Oui,
et ça dure pas longtemps, ça dure de 11h à midi. Une heure seulement. Et
on a dit que de tomates.
170 tonnes de tomates dans une heure. Et on a dit que ça, l'origine de ça, c'est une engueulade entre deux jeunes qui ont eu lieu dans un marché et l'un a lancé les tomates à l'autre. Et là, ça a déboulé cette chose-là. Hein? 170 tonnes de tomates.
C'est quand même incroyable, mais c'est quand même un grand gaspillage.
Oui, un grand gaspillage.
Bon. Moi, écoutez, j'ai une petite information qui est toujours, je dirais presque agricole. C'est l'arrivée qui était redoutée d'une bactérie qui s'appelle Xylella fastidiosa.
Oh.
C'est pas drôle, elle a été confirmée en Corse depuis le 6 août, après avoir été détectée en France depuis le 15 avril sur un plant de caféier. La détection donc de cette bactérie a été faite dans un alignement de plantes d'ornement. Un des arbustes avait paru anormalement sec aux inspecteurs de la santé des végétaux. Mais trois jours plus tard, le laboratoire a confirmé sa présence. Et ça, c'est une nouvelle vraiment qui est assez dramatique, que craignait tout l'ensemble des producteurs, aussi bien d'olives que de clémentines ou de châtaignes. Et elle pourrait même nuire aux vignes, puisque cette bactérie transportée par des insectes peut se propager aisément et il n'existe aucun traitement pour soigner les plantes contaminées. Donc, la bactérie ravage les pouilles en Italie, en Tunisie, et pourrait venir nous faire beaucoup de mal partout.
Eh bien, ma chère André, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission.
J'ai même pas eu le temps de tout dire.
Voilà. Eh bien, merci particulièrement à Mathieu Tessier, qui est là pour les choix musicaux, la mise en onde, et son sourire hein, qui nous aide beaucoup sur qui
Il est en train de nous faire une grimace.
Ouais, il fait un très beau sourire actuellement. N'oubliez pas, on est en reprise à 13h et à 21h. Dites-le à vos amis et réécoutez-nous aussi.
Et vous allez nous trouver aussi sur les sites de canalm.org et de canalm@vuesetvoies.com.
Ben, faites-nous des commentaires, ça nous fait plaisir de vous lire. On vous promet qu'on va regarder, qu'on va lire chacun de vos commentaires.
C'est promis.
On vous le promet.
On aurait beaucoup de plaisir à vous lire, autant qu'on a de plaisir à vous lire les articles.
Merci, André. Alors, on vous souhaite une très bonne semaine.
Très bonne semaine à vous tous.